Le journal.
Bonjour à tous. La Chine a son plus bas niveau de croissance depuis 27 ans, conséquence du conflit commercial qui s'est installé entre Washington et Pékin. Une situation grave selon les observateurs, on voit cela au début de ce journal. Les explications d'un ancien président accusé de corruption à grande échelle, Jacob Zuma, ex-dirigeant d'Afrique du Sud, comparaît aujourd'hui devant la grande commission d'enquête anticorruption, soupçonné d'avoir détourné plusieurs milliards de dollars. Plus de 450 interpellations au total dans toute la France hier, 14 juillet, jour de fête nationale, mais aussi rendez-vous des Gilets jaunes et des supporters algériens après le match en Coupe d'Afrique des Nations. Les réactions politiques se succèdent aujourd'hui. À 12h45, la grande table des idées est en direct d'Avignon. Aujourd'hui, Maïlys Besri reçoit la metteuse en scène Irène Baronneau pour son adaptation d'un scénario de Pasolini. Le comédien Laurent Poitrenaud qui nous fera lecture de Mes prix littéraires de Thomas Bernard pour les fictions de France Culture. Et puis le portrait de Macha Makiyev. Après 2 ans et demi de mandat, la politique protectionniste menée par Donald Trump se fait ressentir sur la deuxième économie mondiale, en Chine, où la croissance économique a atteint son plus faible niveau depuis 1992, plus 6,2% au deuxième trimestre, c'est du jamais vu pour le pays. Conséquence de la guerre commerciale menée par les États-Unis contre Pékin, à Shanghai, les explications d'Angélique Forget.
Le Bureau national de la statistique est inquiet et ne s'en cache pas. L'économie chinoise est dans une situation complexe et grave, a confié son porte-parole à la lecture des chiffres du PIB chinois. La guerre commerciale avec les États-Unis pèse incontestablement sur la deuxième économie mondiale. En mai dernier, après l'échec des pourparlers avec Pékin, Washington avait augmenté une nouvelle fois ses surtaxes douanières sur 200 milliards de biens chinois. L'urgence pour Pékin est donc désormais de trouver une solution à ce conflit, alors que les négociateurs américains et chinois ne parviennent toujours pas à s'entendre. Dans ce contexte, Pékin, cette année, a mis en place une série de mesures pour soutenir son économie. Baisse de la pression fiscale pour les entreprises, accent porté sur la consommation intérieure, banques encouragées à prêter aux petites sociétés. Mais au cas où cela ne suffise pas, les analystes s'attendent à ce que le gouvernement chinois dévoile davantage de mesures pour stabiliser sa croissance.
C'est le jour J en Afrique du Sud, ou plutôt le jour Z, comme on le dit à Johannesburg. Z comme Zuma, l'ancien président qui comparaît aujourd'hui devant la grande commission d'enquête anticorruption du pays, accusé d'avoir détourné des milliards d'euros pendant son mandat, en accordant notamment des contrats publics juteux et autres avantages au clan Gupta, une riche famille indienne dont il est proche. Accusation étayée par des dizaines de témoignages de ministres, élus et autres hommes d'affaires, qui avaient fini par pousser Jacob Zuma à la démission il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, l'heure est donc venue pour l'ancien président de rendre des comptes. Et pour cela, Jacob Zuma s'est lancé dans un grand monologue ce matin. La correspondance de Noé Hochet-Baudin à Johannesburg.
Le témoignage de l'ancien président est très attendu ici en Afrique du Sud. Jacob Zuma doit répondre pendant 5 jours aux questions des juges de la Grande Commission nationale anticorruption. Cette commission a été instaurée l'an dernier et a déjà vu défiler des dizaines de ministres avant Zuma. Mais aujourd'hui, c'est le grand jour, tous les regards se tournent vers lui, le suspect numéro 1 dans de nombreux scandales d'État qui auraient coûté au total plus de 6 milliards d'euros à l'Afrique du Sud. Ce matin pourtant, Zuma n'est pas celui à qui l'on pose les questions. Le sulfureux et habile ancien président est autorisé à raconter sa version des faits, ce qu'il fait depuis 2 heures maintenant, sans faire face à aucune question des avocats. Il se dit victime d'un complot judiciaire, un complot depuis 2 décennies qui voudrait le présenter comme l'homme le plus corrompu du pays. Selon lui, ce que les médias sud-africains qualifient de « capture de l'État » n'a jamais existé. Alors dans son entreprise, Jacob Zuma se sent soutenu, déjà par un camp de son parti, l'ANC, mais aussi par de nombreux partisans qui défileront plus tard ici à Johannesburg devant le bâtiment de la commission d'enquête.
Noé Hochet-Baudin. Emmanuel Macron est en Serbie ce lundi à Belgrade où il va tenter de renouer des liens distendus ces dernières années. Il doit notamment évoquer la question du Kosovo et celle de l'adhésion de la Serbie à l'Union européenne. Et sur ce dernier point, tout reste à faire. Ce matin, la députée européenne Nathalie Loiseau estimait sur France Inter que les Balkans n'étaient pas du tout prêts à entrer dans l'UE, pas plus que l'UE n'était prête à les accueillir. Près de 300 interpellations dans toute la France hier soir. 249 personnes ont passé la nuit en garde à vue. La soirée du 14 juillet a été mouvementée, en plus des festivités de la fête nationale. La victoire de l'Algérie en demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations a entraîné des scènes de liesse avec des milliers de supporters des Fennecs dans la rue, mais aussi des débordements dans plusieurs villes. Bonjour Ilan Malka.
Bonjour.
Plus tôt dans la journée, ce sont des gilets jaunes qui ont occupé le terrain. 175 interpellations dans l'après-midi à Paris, dont les trois figures emblématiques du mouvement. Éric Drouet, Maxime Nicole et Jérôme Rodriguez. Des arrestations préventives pour la plupart. Les manifestants ont été relâchés. Au final, on recense donc très peu de poursuites. Mais en revanche, Ilan, les réactions politiques s'accumulent.
Les scènes de violence après la victoire de l'Algérie étaient attendues. Comment Christophe Castaner a-t-il pu se laisser déborder une nouvelle fois? Ce tweet est signé Éric Ciotti, député Les Républicains. Indignation également de Marine Le Pen, dirigeante du Rassemblement National. Comment est-ce possible que des Black Blocs et des voyous d'extrême gauche arrivent à tout saccager le jour de notre fête nationale? Elle aussi dénonce l'incompétence chronique du ministre de l'Intérieur. Du côté de la gauche, on monte au créneau également. Pour des motifs différents, le député France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel, ne digère pas ainsi l'interpellation de figures importantes des Gilets jaunes. Ils ont été arrêtés uniquement parce qu'ils sont opposants politiques. On est en train de glisser vers un régime autoritaire, affirme-t-il. Il y a donc deux questions principales qui se dégagent. Les forces de l'ordre ont-elles été prises hier par surprise? Ont-elles interpellé Éric Drouet, Jérôme Rodriguez et Maxime Nicole simplement pour leurs opinions politiques? Réponse sur France Info de David Michaud, secrétaire national CRS pour l'UNSA Police.
On s'attendait, hein, bien sûr que si, puisque des annonces avaient été faites sur les réseaux sociaux pour venir perturber. Les gens étaient bien présents, hein, que ce soit des gilets jaunes, des black box ou toute personne qui voulait causer du trouble à l'ordre public. On avait les quatre têtes des gilets jaunes qui étaient présentes. Ces quatre personnes ont été interpellées à titre préventif et surtout pour éviter que ça dégénère. Malheureusement, on a des manifestations qui se sont déclenchées et des affrontements avec les policiers.
Et rappelons que ces gilets jaunes ont été libérés au fil de la journée d'hier.
Merci, Ilan Malka. Un train a percuté une voiture ce matin dans la Marne sur le passage à niveau d'Avenay-Val d'Or. Vers 9h45, les quatre occupants sont morts dans la collision. Selon les premiers éléments de l'enquête, la voiture était immobilisée au milieu de la voie au moment du passage du train. Un nouveau déserteur chez les Républicains. Laurence Saillez quitte à son tour le navire après Valérie Pécresse en juin. La porte-parole du parti annonce ce matin sa démission et précise qu'elle quitte les Républicains pour rejoindre une émission de télé. Balance ton poste, présenté par Cyril Hanouna. Bonjour Rosalie Lafarge.
Bonjour.
Un grand écart cocasse, mais qui soulève aussi beaucoup de questions. Un mois et demi seulement après la déroute de la droite aux européennes.
Oui, porte-parole des LR depuis un an et demi, engagée auprès du parti depuis 17 ans. Laurence Saillez a même voulu en être la présidente en 2017. L'avoir quitté le navire aujourd'hui, alors que les Républicains sont en pleine crise, forcément cela interroge.
Mon départ n'est pas lié à l'état de la droite, mon départ est un choix personnel.
Laurence Saillez insiste, elle n'a aucun problème avec son parti, ses dirigeants ou son état de décomposition avancée. Elle part chez Cyril Hanouna, où elle pourrait retrouver l'ancienne insoumise Raquel Garrido, pour pouvoir parler en toute liberté, et non plus seulement au nom des siens. Mais difficile de ne pas faire de lien avec la situation actuelle des LR, un parti dont la parole est devenue difficile à porter ces derniers temps, et au sein duquel on a un peu de mal à encaisser la nouvelle ce matin.
Ce que je remarque, c'est que ce matin, ceux qui critiquent ma démarche d'aller chez Cyril Hanouna sont bien souvent des gens qui, franchement, sont vraiment déconnectés maintenant des réalités. Certains pensent qu'on peut faire de la politique uniquement dans un microcosme avec 15 personnes qui sont toujours d'accord avec vous. Mais là, non, c'est une autre démarche. Comme on dit en politique, j'avais déjà le cuir tanné, donc ça devrait bien se passer.
Peut-être mieux qu'au sein des LR, en tout cas, où Laurence Saillez vient allonger la liste des départs déjà nombreux depuis la déroute aux européennes. Départ des élus, des cadres du parti, mais aussi des adhérents. Il serait aujourd'hui 70 000 à jour de cotisation, trois fois moins qu'en 2017, avant la candidature de François Fillon à la présidentielle.
Merci Rosalie Lafarge. Bien plus qu'une ligne SNCF, c'est un symbole menacé depuis plusieurs mois. Vieillissant et pas assez rentable, le train des primeurs qui relie les producteurs de Perpignan au marché de Rungis devait effectuer son dernier voyage vendredi au profit d'un transport par route. Un non-sens pour les primeurs français qui ont exprimé leur colère ces dernières semaines. Et face à la grogne, Elisabeth Borne, la ministre des Transports, assurait vendredi que finalement le train allait rouler ce lundi. Bonjour Oana Favnek.
Bonjour.
Le train reste donc toujours en service pour l'instant, mais toute la question c'est de savoir pour combien de temps.
Oui, la ligne Perpignan-Rungis est toujours en sursis. Les wagons réfrigérés obsolètes ne seront bientôt plus aux normes. Et les rénover ou les remplacer coûteraient, selon les estimations, entre 20 et 30 millions d'euros. Que l'État laisse toujours aujourd'hui à la charge des transporteurs Roca et Ray. Trop cher pour les deux principaux utilisateurs de la ligne. Ils ont donc affrété des camions qui rouleront à partir de la rentrée pour acheminer 600 tonnes de fruits et légumes par jour. Dans Midi Libre, vendredi, la ministre des Transports annonçait qu'à sa demande, la SNCF s'était engagée, je cite, à maintenir le train jusqu'à la fin de l'année et au-delà le temps que l'on mette en place une solution pérenne. Et c'est justement ça qui est urgent pour Romain Pitelet. Selon le responsable de la CGT Cheminots Paris-Rive-Gauche, dire que le train fonctionnera ce lundi ne règle absolument rien.
Pourquoi pas mardi? Pourquoi pas mercredi? Nous, c'est pas le sujet. C'est comment, à long terme, il y a des solutions qui soient trouvées vis-à-vis des clients à qui on a fermé la porte au nez en leur disant que le train était supprimé, donc ils se sont organisés désormais autrement. Contraindre les chargeurs, évidemment, à utiliser ce train. Et puis, comment faciliter l'accès à ce train en termes de réduction, du coût des péages qui doivent être payés pour la circulation de ce train. Et ça, c'est une décision ministérielle. C'est une décision du ministère des Transports qui peut être prise et qu'on attend encore.
Une réunion est programmée mercredi à Perpignan par le ministère des Transports, réunissant les acteurs du dossier. Le comité Sauvons le train Perpignan-Rungis estime que la fermeture de la ligne de fret reviendrait à mettre sur la route 25 000 camions par an et que depuis l'ouverture à la concurrence du fret et les différents plans de restructuration de la SNCF, ce sont plus d'un million et demi de véhicules qui ont d'ores et déjà été mis en circulation.
Merci, Oana Favnek. On ne connaît pas encore les causes exactes du décès d'un ostréiculteur de 18 ans, retrouvé il y a 10 jours dans la baie de Morlaix. Mais le principal suspect reste les algues vertes en prolifération inquiétante depuis le début de l'été en Bretagne. Les algues vertes contaminées par l'épandage agricole et les rejets liés à l'élevage porcin dans la région. Elles dégagent un gaz toxique lorsqu'elles se décomposent sur les plages, l'hydrogène sulfuré, accusé de la mort de plusieurs humains et animaux chaque année. En réponse, les autorités ont décidé de fermer plusieurs plages, mais d'autres restent accessibles malgré le danger, comme l'a constaté Véronique Rébérotte à Ilion, dans la baie de Saint-Brieuc.
Donc vous voyez, vous entendez là, ça craque.
L'odeur d'algues vertes en décomposition prend à la gorge le long de ce sentier de grande randonnée. Yves-Marie Lelay de l'association Sauvegarde du Trégor n'est pas surpris.
Ici, nous sommes dans un estuaire, l'estuaire du Gouessant, qui est cette rivière de la baie de Saint-Brieuc, qui est classée en réserve naturelle.
Donc cet endroit-là, il est pas fermé, il n'est pas interdit au public. Vous dites que c'est une réserve, on ne doit pas mettre les pieds normalement, mais n'importe qui peut y venir. Là,
est-ce que vous avez vu un panneau?
Non.
Ben c'est dommage parce que nous en avions mis et ils ont été retirés. Des panneaux signalant les dangers.
Retirés par qui, du coup?
Alors, je ne sais pas, je n'étais pas là quand les panneaux étaient retirés. Mais en tout cas, je sais que la mairie les a remis. Malheur à celui qui passe là. Hein. Là, c'est clair, les lieux tels qu'ils sont là sont des lieux hyper dangereux. Rien ne le signale.
C'est là qu'un jogger a été retrouvé mort en 2016. Yves-Marie Lelay ne sort pas sans son masque et son détecteur de H2S, l'hydrogène sulfuré, un gaz toxique soupçonné d'avoir causé la mort de plusieurs personnes ces dernières années en Bretagne. Son détecteur s'affole quand il remue une vase chargée d'algues vertes en putréfaction.
Je suis arrivé jusqu'à 110 ppm.
110 ppm quand une concentration de 20 ppm est considérée comme dangereuse. Le maire d'Ilion, commune sur laquelle se trouve l'estuaire de Gouessant, a pris l'initiative de fermer plusieurs plages, ne pas prendre de risques, mais surtout Michael Cosson estime ne pas avoir les moyens techniques de ramasser ces tonnes d'algues vertes.
Dès lors qu'on est dans des endroits plus vaseux ou bien plus rocheux, ben là, les moyens tracteurs et remorques, vous comprenez aisément qu'on ne peut pas y accéder.
On a été tout de suite vers l'estuaire de Gouessant, en plus, qui est accessible, qui est rempli d'algues vertes, en putréfaction, tout ça. Même le long d'un GR, là, il y avait un sentier de grande randonnée.
Si vous trouvez des solutions pour pouvoir indiquer en pleine mer, à basse mer, qu'il ne faut pas y aller, moi, je suis preneur.
Le problème des algues vertes a été évoqué pour la première fois il y a presque 50 ans. En Bretagne.
Un reportage de Véronique Rebérotte dans la baie de Saint-Brieuc, la baie de Saint-Brieuc qui concentre la moitié des algues vertes de la région. L'OMS met en garde sur la nourriture industrielle pour les bébés, des préparations trop sucrées et un étiquetage pas assez clair qui peuvent entraîner donc du surpoids, des caries et une accoutumance précoce au sucre. L'OMS recommande de nouveaux critères plus clairs pour l'alimentation des tout-petits. Un point sur la météo de la journée. La Haute-Corse est placée en vigilance orange. On attend des orages et des cumuls de pluie
pluie jusqu'à 120 mm, de très fortes rafales de vent ainsi que de la grêle. Globalement, le ciel est chargé du Jura aux Alpes, à la Côte d'Azur et puis la Corse. En fin de journée, les orages vont s'évacuer vers la Corse du Sud. Partout ailleurs, une journée estivale, un soleil généreux, quelques plaques de nuages sur les côtes normandes, des cumulus inoffensifs qui bourgeonnent. En vallée du Rhône, le Mistral qui souffle jusqu'à 70 à 80 km/h. Des températures maximales en légère baisse par rapport à hier, qui s'échelonnent entre 20 et 27 degrés au nord de la Loire, dans l'est et dans le massif central, 26 à 30 plus au sud, globalement 31 ou 32 degrés vers le Languedoc.